Quatrième soirée, nous lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 20, versets 27 à 44. Et quelques-uns des Sadducéens qui nient qu'il y ait une résurrection s'approchèrent et l'interrogèrent, disant : Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme, et qu'il meurt sans enfant, son frère prenne la femme et suscite de la postérité à son frère. Il y avait donc sept frères, et le premier ayant pris une femme mourut sans enfant, et le second prit la femme, et celui-ci aussi mourut sans enfant, et le troisième la prit, et de même aussi les sept. Ils ne laissèrent pas d'enfants et moururent. Et après eux tous, la femme aussi mourut. Dans la résurrection donc, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Et Jésus leur dit : Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage, mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle et à la résurrection d'entre les morts, ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Or, que les morts ressuscitent, Moïse même l'a montré au titre du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous vivent. Et quelques-uns des scribes répondant dirent : Maître, tu as bien dit. Et ils n'osèrent plus l'interroger sur rien. Et il leur dit : Comment dit-on que le Christ est fils de David ? Et David lui-même dit dans le livre des Psaumes : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. David donc l'appelle Seigneur, et comment est-il son fils ? Première résurrection ou résurrection des justes. Le sujet sur lequel je me propose de vous parler ce soir est la résurrection, et spécialement la résurrection des justes, comme tout à fait distincte de celle des méchants. Nous avons parlé de Christ héritier de toutes choses, de l'Église comme co-héritière avec lui, et de la venue de Christ avant les 1000 ans pour régner. Avènement qu'il ne faut pas confondre avec le jour de la résurrection des méchants et du jugement qui se tient devant le grand trône blanc et qui n'aura lieu qu'après le millénium. Maintenant, nous avons à voir participer l'Église à cette venue de Christ. C'est ce qui s'effectue par la première résurrection. Je n'ai pas besoin de vous parler de la résurrection de Jésus comme étant le sceau de sa mission. Sous ce rapport, je la regarde comme une vérité admise. Il suffit de vous citer pour ce premier point Romains chapitre 1 verset 4, où l'apôtre nous dit que Jésus-Christ a été pleinement déclaré Fils de Dieu en puissance par la résurrection des morts. La résurrection était le grand fait qui démontrait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'était aussi, en même temps, le grand thème des prédications des apôtres, la base de leurs épîtres et de tout le Nouveau Testament. Disons-nous bien, chers amis, en passant, que la difficulté sur les sujets que nous traitons ne provient pas de ce que la parole de Dieu ne soit pas simple, claire et convaincante, mais de ce que, pour l'ordinaire, des idées préconçues nous en dérobe le sens naturel. Il est des habitudes de pensée qu'on s'est faites en dehors de la Sainte Écriture. on apporte des idées à cette parole plutôt que de les en rapporter. On trouve alors des inconséquences, de l'incompatibilité dans ce qui nous est présenté. Et nous ne soupçonnons pas que cette incompatibilité n'est due qu'à des idées toutes humaines. La doctrine de la résurrection est importante sous plus d'un rapport. Elle lie nos espérances à Christ et à toute l'Église. En un mot, au conseil de Dieu en Christ. Elle nous fait comprendre que nous sommes entièrement affranchis en lui par notre participation à une vie dans laquelle, étant unis à lui par le lien de l'Esprit, nous trouvons, par la puissance de ce même Esprit, la force pour le glorifier, même dès maintenant. Elle établit notre espérance de la manière la plus solide, elle exprime enfin tout notre salut en ce qu'elle nous introduit dans une nouvelle création par laquelle la puissance de Dieu nous place. Dans le second Adam, au-delà de la sphère du péché, de Satan et de la mort. L'âme en délogeant va à Jésus, mais n'est pas glorifiée. La parole de Dieu parle d'homme glorifié, de corps glorifié, jamais d'âme glorifiée. Mais comme je l'ai dit, des préjugés, des enseignements humains ont pris la place de la parole de Dieu et l'attente de la résurrection n'a cessé d'être l'état habituel de l'Église. La résurrection était la base de la prédication des apôtres. Actes chapitre 1er, verset 22, « Il faut que quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Voilà le sujet constant de leur témoignage. Voyons maintenant les termes mêmes de ce témoignage. » Chapitre 2, verset 24, « Mais Dieu l'a ressuscité. » De même, verset 32, « Dieu a ressuscité Jésus, de quoi nous sommes tous témoins. » Chapitre 3, verset 15, « Et vous avez mis à mort le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes les témoins. » Chapitre 4, verset 2, « Nous voyons que cette doctrine de la résurrection était reconnue pour la doctrine publiquement prêchée par les apôtres, laquelle n'était pas que l'âme en mourant aille dans le ciel, mais que les morts revivront. Comme les pharisiens étaient ce qu'il y avait de plus opposé au Seigneur pendant qu'il était sur la terre, c'est-à-dire les faux justes opposés au seul vrai juste, vous verrez de même Satan susciter après sa mort les Sadducéens qui étaient ennemis de la doctrine de la résurrection. » Actes chapitre 4, verset 1 et chapitre 5, verset 17. Actes chapitre 10, verset 38, 40 et 41. Saint Pierre rend témoignage à cette même vérité fondamentale devant le centenier Corneille et ses amis. Saint Paul la prêchait de même aux Juifs d'Antioche en Pisidie, Actes chapitre 13, verset 34, leur disant « Dieu nous donne les saintetés de David assurées en ce qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. » Actes chapitre 17, verset 18 et 31, il annonçait au milieu des savants gentils cette doctrine qui était la pierre d'achoppement de leur sagesse charnelle. Socrate et d'autres philosophes croyaient bien à l'immortalité, mais quand ces hommes et d'autres curieux entendirent parler de la résurrection du corps, ils se moquèrent. Un incrédule peut discourir de l'immortalité. Mais s'il entend parler de la résurrection des corps, il tourne ce sujet en dérision. Et pourquoi ? Parce que, au moyen de l'immortalité de l'âme, il peut s'exalter lui-même, il peut rehausser sa propre importance. C'est quelque chose qui s'allie à l'homme tel qu'il est. Mais la poudre ressuscitée en faire un être vivant et glorieux, c'est une gloire qui n'appartient qu'à Dieu, une œuvre dont Dieu, Dieu seul est capable, car si Dieu, qui a réduit en poussière tous les éléments de notre corps, peut de nouveau les réunir et en faire un homme vivant, assurément, il peut tout faire. Voyez encore, soit que l'apôtre ait eu raison ou non d'en appeler aux préjugés des pharisiens, chapitre 23, verset 6, où il affirme directement que c'était pour la prédication de cette doctrine qu'il était mis en cause, 24, verset 15, il expose la même vérité. Chapitre 26, verset 8, il la présente au roi Agrippa comme la chose dont il s'agissait, de même aussi au verset 23. On voit par ces passages que la résurrection était constamment le fond de la prédication des apôtres et l'espérance des fidèles. Venons-en maintenant à la seconde partie de notre sujet, la résurrection de l'Église à part ou la résurrection spéciale des justes. Il y aura, nous dit l'apôtre, une résurrection et des justes et des injustes. Mais la résurrection des justes ou de l'Église est une chose tout à fait à part, qui n'a point de rapport avec celle des méchants, qui n'a pas lieu au même moment que cette dernière, ni d'après le même principe, car bien qu'elles doivent l'une et l'autre être accomplies par la même puissance, il y a dans la résurrection des justes un principe particulier, savoir l'habitation du Saint-Esprit en eux, qui est étranger à la résurrection des méchants. Remarquez que la vertu de la résurrection embrasse la vie, la justification, la confiance, la gloire de l'Église. Dieu lui-même nous est présenté sous le nom de Dieu qui ressuscite les morts, qui introduit sa puissance dans les dernières profondeurs des effets de notre péché, dans le domaine de la mort, pour en faire sortir une vie qui dès lors met l'homme au-delà de toutes les funestes conséquences du péché, une vie auprès de Dieu. Romains chapitre 4, versets 23 à 25. C'est en Dieu qui ressuscite les morts que nous sommes appelés à croire. C'est la résurrection de Jésus qui est la puissance, l'efficacité de notre justification. Voilà la vérité que nous présente ce passage, notre union à Jésus ressuscité. Voilà ce qui fait que nous sommes acceptés de Dieu. Nous devons nous voir déjà au-delà du tombeau. C'est pourquoi la foi d'Abraham était une foi justifiante. Il ne regardait pas à son corps qui était déjà amorti, mais il croyait en un Dieu qui ressuscite les morts. C'est pourquoi sa foi lui a été imputée à justice. La résurrection de Jésus était la grande démonstration et, en même temps, quant à tous ses effets moraux, l'établissement de cette vérité que l'objet de notre foi est que Dieu ressuscite les morts. Nous voyons cette vérité nettement exprimée dans l'épître de saint Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 21. L'application nous en est faite à nous-mêmes par notre union avec le Seigneur. Colossiens chapitre 2 verset 12. Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui par le moyen de la foi à l'efficace de Dieu qui l'a ressuscité des morts. L'Église ressuscite d'abord parce que Christ est ressuscité comme son chef. La résurrection de l'Église n'est pas une résurrection qui ait le jugement pour but. Elle est simplement la conséquence de son union avec Christ qui a été jugé pour elle. Nous voyons aussi dans ce passage comment ces vérités se tiennent. La résurrection de l'Église est une chose spéciale parce que l'Église participe à la résurrection de Christ. Nous sommes ressuscités non seulement parce que Jésus-Christ nous appellera du tombeau, mais parce que nous sommes un avec lui. C'est pourquoi aussi, en participant à la foi, nous sommes déjà ressuscités avec Christ, ressuscités quant à l'âme, mais non quant au corps. La justification de l'Église, c'est qu'elle est ressuscitée avec Christ. C'est ce même fait qui est exprimé dans Éphésiens chapitre 1, verset 18 et suivant, chapitre 2, verset 4 à 6. Saint Paul ne disait jamais « si je suis sauvé, je suis content ». Il savait que c'est l'espérance qui rend l'âme active, qui excite les affections, qui anime et dirige tout l'homme. Et il désirait que l'Église eût le cœur plein de cette espérance. Il ne doit pas nous suffire de dire « je suis sauvé ». Ce n'est pas assez pour l'amour de Dieu qui n'est pas satisfait si nous ne sommes pas participants de toute la gloire de son Fils et nous ne devons pas être indifférents à sa volonté. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous présente la même vérité. La présence du Saint-Esprit dans l'Église, voilà ce qui caractérise notre position devant Dieu. Ainsi que l'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu, qu'il est notre consolateur, qu'il nous aide dans nos infirmités et nous rend capables de servir Dieu. De même, c'est à cause du Saint-Esprit qui est en nous que nous serons ressuscités. Et c'est ce qui fait aussi que le principe de la résurrection de l'Église est tout autre que celui de la résurrection des méchants. Notre résurrection est la conséquence de la demeure du Saint-Esprit.